Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette émission de la série Foi et Turbulence. Au microphone, c'est Francine Robert de l'Institut de Pastoral. Mon invité aujourd'hui vient de loin. J'ai le plaisir de recevoir Nicolas Burle, qui est un Dominicain français, actuellement aux études au Collège Dominicain d'Ottawa pour 2 ans. Il est au second cycle à l'université en théologie. Nicolas est ici parce qu'il est l'artisan avec d'autres Dominicains de la ville française de Lille. Il est l'artisan de ce qui s'appelle la retraite dans la ville. Peut-être certains et certaines parmi vous en avaient déjà entendu parler. Peut-être même avez-vous déjà participé à cette retraite qui est proposée sur Internet au Carême et qui a pour la première fois cette année été proposée à l'Avent aussi, donc en décembre 2012. Si vous ne connaissez pas encore, il est vraiment temps parce que vous verrez, c'est un projet particulièrement original et intéressant. Nicolas Burle, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de vous rendre disponible pour cette entrevue, Nicolas. La première fois, je vous le dis tout de suite, la première fois où j'ai entendu parler de la retraite dans la ville, c'est il y a 4 ou 5 ans. 2 personnes qui sont devenues des étudiants à l'Institut parmi les meilleurs que je connaisse, qui avaient vécu cette retraite, et c'est cette expérience qui les avait amenés à décider de suivre des études en théologie, en fait, a décidé de travailler au plan de l'intelligence de la foi, que je trouvais une motivation particulièrement intéressante. Et on voyait qu'ils avaient déjà un certain fond de réflexion, entre autres à cause de cette expérience du carême. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous leur avez proposé pour que, à distance comme ça, chez eux, dans leur salon, branchés sur leur ordinateur, ces gens décident, alors qu'ils sont psychiatres et comptables de métier, ces 2 personnes décident de venir suivre des cours?
Alors, on a proposé quelque chose qu'on peut trouver, en fait, dans les couvents ou dans les monastères si on veut faire une retraite. Mais seulement là, on l'a proposé sur Internet pour que ça soit disponible pour tout le monde, pour tous ceux qui n'ont pas le temps d'aller faire une retraite ou qui se posent des questions sur comment est-ce qu'on fait. On a proposé chaque jour une petite méditation. Donc, il y a un verset de la parole de Dieu et une méditation très courte à lire, 1-2 minutes. Écrite par un frère ou une sœur dominicaine. Et on reçoit ça gratuitement dans sa boîte mail chaque matin. Ouais, ça, c'est le cœur de la retraite dans la ville. Chaque jour, une méditation de la parole de Dieu. Après, qu'est-ce qu'on a aussi dans un couvent? On a des prières. Et donc, on propose notre office, donc la prière chantée, qu'on peut écouter. Ça dure 15-20 minutes. Donc, certains mettent ça sur leur téléphone intelligent et dans le métro, dans les bus, l'écoute.
OK, et ça n'est pas que le texte, là, c'est chanté.
Il y a le texte, ouais. Et chanson, okay. C'est nous qui chantons.
Ouais.
Et puis, il y a aussi la possibilité, dans cette retraite, de prier. Donc, non seulement avec nous en chantant, mais aussi de prier les uns pour les autres en déposant des intentions de prière. Et donc, les internautes peuvent soit confier à une communauté religieuse, soit aux autres internautes leur intention de prière, on laisse le choix. Et 2 autres systèmes nous permettent de développer l'idée de communauté, c'est d'avoir un blog. Donc ça, c'est vraiment pour donner des nouvelles de la retraite et pour que les gens puissent commenter, discuter entre eux. Et l'accompagnement, donc vous écrivez un mail et un frère ou une sœur dominicaine vous répond 3 ou 4 jours plus tard. Sur votre question, s'il y a besoin, on peut continuer un petit peu l'échange. Et voilà, ça c'est aussi la possibilité d'une retraite.
Ok, et il n'y a pas d'homélie dans cette retraite ?
Alors c'est ce qu'on appellera du coup la méditation. C'est okay. Un verset de la parole de Dieu et une méditation. Et en fait, c'est le même frère ou la même sœur qui prêche pendant 1 semaine. Donc il va proposer tout un petit parcours. Tout un thème, un avait médité sur les 5 sens, un autre avait fait le Notre Père pendant 1 semaine. L'idée, c'est d'approfondir un aspect de la foi, un petit parcours. Un frère, je m'en souviens, avait fait quelque chose d'original sur les verbes à l'impératif dans l'Évangile.
Ah ouais.
Donc, guéris, marche,
oui, va,
lève-toi.
Même, ouais.
Exactement. Donc, il avait pris quelques-uns comme ça. Et il avait essayé de comprendre ce que voulait dire Jésus par là.
Ah bon, c'est très original en effet. Et cette méditation, elle est en texte écrit alors, elle n'est pas verbale, elle n'est pas orale.
Il y a les deux. Okay. On peut la lire sur le mail, sur le site, et puis on peut l'écouter aussi. On propose tout à l'écoute audio.
Ouais.
L'idée, c'est voilà, si vous êtes chez vous et que vous voulez faire autre chose, si vous voulez vous concentrer sur ce que vous lisez ou écouter tranquillement la méditation, voilà, vous pouvez le faire.
Oui, c'est bien parce que parfois à l'écoute, l'écoute rejoint une sorte d'interpellation très directe, hein, mais en même temps, ça passe une fois que c'est dit. Alors que le texte à lire peut être lu, relu et à un rythme.
Oui, on remarque aussi que beaucoup de gens partagent le texte qu'ils ont reçu. Quand ça leur plaît, ils l'envoient à tous leurs contacts, certains l'impriment et le déposent. Je sais que, par exemple, un ami de mes parents en France l'imprimait et le donnait, le distribuait aux membres d'une maison de repos. Donc voilà, chacun avait son petit texte chaque jour. Ouais, c'était sa petite mission de carême.
Ouais.
C'était de faire participer les gens. Donc on avait 67 000 inscrits, mais si ça se trouve, c'est beaucoup plus, puisqu'on ne sait pas combien de gens lisent les mails une fois reçus.
Effectivement. Et quand vous dites 67 000 inscrits, vous voulez dire des gens qui, dès le début du carême, ou avant même le début, disent « oui, moi, je veux tout recevoir à chaque jour ».
Un inscrit, c'est quelqu'un qui nous donne son adresse mail pour recevoir chaque jour la méditation. Du coup, voilà, on en a eu 67 000. Et en revanche, on a eu 350 000 personnes qui sont venues sur le site regarder au moins une fois ce qui s'y passait.
Donc il y a un site spécifique pour cette retraite à chaque carême.
Qui s'appelle donc retraitedanslaville.org, qui est même en train de devenir une plateforme pour tout le reste de l'année, puisque maintenant, il y a une retraite pour le temps avant Noël, l'avant.
Ouais.
Et pour le reste de l'année, on propose l'écoute de psaumes par des comédiens.
Ah
voilà.
Bon.
Chaque jour de la semaine. Et trois fois dans la semaine, il y a un frère ou une sœur qui va méditer sur le psaume. Pareil, une courte méditation.
Et donc, pour ça, les gens n'ont pas à s'abonner. Ils vont sur le site Retraite dans la ville.
Ou alors, ils peuvent recevoir par mail.
Ouais.
Voilà, c'est possible aussi.
Et donc, vous me disiez 67 000 inscrits, c'est quand même beaucoup. Avez-vous une idée du type de personnes qui s'inscrivent? Vous avez une sorte de profil ou...
Alors, on a un sondage. On demande à la fin aux gens de bien vouloir répondre à un sondage. Ça nous aide à savoir qui
est-ce
sont.
Est-ce qu'il y en a plusieurs qui répondent?
Ah, on a eu 16 000 réponses l'année dernière. Donc
c'est énorme.
Ça fait des bonnes statistiques.
Ouais, ouais.
On sait que deux tiers sont des femmes. Voilà. Ce qui est normal souvent dans des projets chrétiens. On sait que les trois quarts sont des Français de métropole. Des francophones un peu du monde entier. Le deuxième pays après la France, c'est le Canada.
C'est vrai?
Oui. 10% de nos inscrits sont des Canadiens, donc ça représente une grosse population.
Ouais.
Et puis, on sait aussi que 10% de ces internautes se déclarent non chrétiens ou très éloignés de l'Église.
Mmh.
Alors pour nous, c'est une statistique très intéressante parce qu'on se dit que c'est cette partie-là qui répond le moins spontanément au sondage. On se dit donc qu'elle est sous-estimée et qu'il y a au moins 10% de gens qui ont suivi le carême avec nous pendant 40 jours, alors qu'ils se disent très éloignés de l'Église. Et là, c'est très intéressant.
Oui, parce que je présume que ces gens-là n'iraient pas même vivre une retraite. Bon, on peut le proposer comme ça à des gens dont vous disiez qu'ils n'ont pas les moyens ni le temps d'aller dans un couvent, mais ces gens-là, ils n'auraient même pas l'intérêt.
Oui, peut-être
l'idée.
Même pas l'idée. Ou... En tout cas, là, voilà, il y a 6 000 personnes qui l'ont fait.
Ouais.
Et donc, nous, on trouve ça merveilleux de pouvoir ouvrir la porte comme ça à des gens qui passent, qui s'intéressent, qui découvrent. Des témoignages que vous avez donnés au début, on en a des centaines, les gens nous écrivent énormément. On avait une dame qui nous a dit qu'après avoir lu La Retraite dans la ville elle-même, son mari s'y était inscrit l'année suivante,
ouais.
Et la troisième année, il a demandé le baptême. Alors évidemment, c'est pas La Retraite dans la ville qui a tout fait, c'est le Seigneur, mais... On se dit qu'on a quand même été un petit jalon sur le chemin.
Bien
et
sûr.
On a été très honorés qu'elle nous envoie une lettre pour nous faire part de ça.
Oui, en effet. Oui, parce que c'est pas évident de trouver des lieux de proposition de l'Évangile ou à des gens qu'on rencontre jamais, qu'on voit nulle part, qui sont un peu frileux, peut-être pas à tort, dans la crainte d'être, je sais pas, récupérés, ou enfin qu'on veuille les envoyer à l'église tous les dimanches.
Ce qu'on essaye de faire, c'est que tout le monde peut venir. On ne demande pas de certificat de baptême, on ne demande pas de connaissances spéciales. On essaye de ne pas avoir de langage codé, on essaye de ne pas mettre JN 20-20, mais Évangile de Jean, chapitre 20, verset 20. Et l'idée, c'est que vous puissiez venir et vous savez que vous avez affaire à des chrétiens. En revanche, on ne se cache pas, c'est une retraite chrétienne, catholique, faite par des religieux catholiques français dans un couvent. Donc voilà, il y a quelque chose d'extrêmement transparent. Mais aussi, et du coup, d'extrêmement respectueux. C'est-à-dire, voilà, vous savez qui nous sommes, vous venez comme vous êtes, et on se respecte comme ça.
Bien sûr, puisque de toute manière, les gens ne sont pas obligés ni de vous répondre, ni de réagir, ni...
Non, et c'est totalement anonyme, et surtout, on insiste, totalement gratuit. Cette retraite, elle ne vit que de dons, donc les internautes qui nous soutiennent nous envoient des dons. Mais elle est totalement gratuite. On peut la suivre sans avoir rien à payer.
Et ils peuvent s'inscrire sous un nom et même sous une adresse mail qu'ils ont créée exprès pour
ça. Oui.
Donc, ça respecte aussi un certain anonymat, je dirais, pour les gens les plus frileux ou ce qu'on appelle, enfin, même pas les gens du parvis, mais les gens de l'autre côté de la rue, quoi.
Oui, c'est ça.
Ça serait ça. Ou de l'autre quartier. Bon, ça veut dire qu'il y a à la fois donc du contenu biblique, de la réflexion spirituelle. Je lisais dans un de vos textes qu'il y avait la proposition d'un parcours biblique. Et là, le professeur de Bible en moi s'est intéressé de façon plus spéciale. Vous n'êtes pas dépendant du lectionnaire ou oui?
Alors, on a fait le choix, comme c'est une retraite, de justement faire des petits parcours bibliques et pas des mini-homélies. On ne prend pas, pour la retraite dans la ville, version carême en tout cas, on ne prend pas les textes du jour, sauf le dimanche. Et c'est vraiment le frère ou la sœur qui va construire son parcours sur les 7 jours.
Ben c'est bien, parce que le lectionnaire n'est pas conçu pour ça, et donc les choix permettent pas toujours ce qu'on voudrait.
Oui, tout à fait. Alors, beaucoup de gens nous demandent pourquoi est-ce qu'on prend pas l'évangile du jour ou pas. Ou c'est pour s'habituer, disons, à autre chose, qu'on veut leur proposer cela. Mais par exemple, pour le temps de l'Avent, on avait fait le choix inverse. Pour amener les gens, comme la liturgie de l'Avent est très construite pour nous amener vers Noël, on avait fait le choix de respecter donc les évangiles du jour et d'être vraiment adapté à cette coloration spéciale du temps qui nous est proposée.
Donc, cette liberté que vous prenez dans les textes des 6 jours, sauf le dimanche, pour le carême, j'imagine, permet de soit d'inscrire une continuité, une lecture continue, par exemple, de certains livres bibliques ou...
C'est juste un ou deux versets de la parole de Dieu, puisque on veut que la personne puisse, si elle le veut, apprendre ces deux versets et que ça colore sa journée. On ne cherche pas d'abord à donner une culture biblique à la personne, on cherche à l'accompagner pour lui donner envie de lire la Bible. Donc c'est très difficile de lire des longs textes sur Internet, c'est beaucoup plus facile d'essayer de donner quelque chose qui donne le goût.
Okay.
Voilà, ça goûte bon. C'est une expression que j'aime beaucoup au Québec. Eh ben, il faut que cette méditation, elle sorte de versets qui goûtent bon et qui vont colorer toute la journée. Voilà, on veut que les gens partent avec cela. Et ce qu'on remarque, c'est que ça fonctionne et que beaucoup de gens ouvrent leur Bible. C'est-à-dire, si un frère, par exemple, médite sur un texte de l'Évangile, il va le développer pendant 6 jours. Beaucoup de gens vont le reprendre. Si un autre médite sur différents épisodes ou des petits versets comme ça, souvent les gens vont aller regarder ce qui s'y passe, quel était le contexte autour.
D'accord, et vous savez ça parce qu'ils vous écrivent pour dire qu'ils l'ont fait ou...
Oui, on reçoit énormément
de
messages, on en reçoit 500 par jour à peu près.
500 par jour?
500 messages par jour de gens qui nous disent merci très souvent. Qui nous proposent des réflexions, qui veulent savoir ce qu'on pense sur différents sujets. Donc, on a un rapport très direct avec notre communauté.
Mais oui.
Et c'est très agréable, en fait. C'est ça que permet aussi Internet, c'est d'avoir cet échange immédiat avec les gens sur les sujets qu'ils veulent. Beaucoup aussi font part, du coup, de leurs réflexions. Quand le texte a plu, on le sait tout de suite. Quand le texte n'a pas plu, on le sait assez vite aussi. Et ça nous permet d'affiner, de voir que... Il y a une façon de parler qui est audible, une façon qui ne l'est plus ou qui ne l'est pas.
Ah ouais, on a un langage qui tourne en rond à l'intérieur d'une certaine théologie, ecclésiologie aussi, langage de sacristie.
Et puis, il faut dire les choses... On va rejoindre les gens pendant 2-3 minutes de leur attention dans la journée. Ça peut paraître très peu, mais c'est vraiment un temps qui nous consacre qu'à nous. Ce qui est très rare dans une journée de consacrer du temps qu'à une personne ou à une chose. Donc il faut que ça soit musclé, quoi. Il faut que cette prédication, elle soit bien, elle soit belle et elle donne envie pour la journée de vivre. Parce que souvent les gens lisent le matin. On peut lire à n'importe quel moment, mais souvent les gens le lisent le matin.
Ouais. Et quand vous dites, de toute façon, il nous consacre 2 minutes, en fait, c'est que ça continue de tourner dans l'esprit.
Ça,
souvent.
C'est notre espérance.
Oui, bien sûr. Et parfois, même sans que ce soit très conscient, mais ça reste... l'esprit humain est tellement complexe à ce niveau-là.
Oui, tout à fait.
Mais ces homélies, là, ces textes de méditation, ils ont quelle longueur?
Alors, ils font techniquement 1500 signes.
OK.
Ça, c'est... terme de journaliste, c'est-à-dire que ça fait à peu près la moitié d'une feuille A4, donc vous le lisez en 2 minutes, à peu près, en les lisant tranquillement.
Ok. En fait, les 2 plus gros morceaux de la proposition de contenu sont cette homélie sur 2 ou 3 versets bibliques et la participation à la liturgie du cœur.
Exactement.
Je pensais, en lisant là-dessus, Nicolas, que... ça rejoignait assez bien, en tout cas, l'aspect de l'homélie, le charisme propre des dominicains. C'est l'ordre des prêcheurs. On appelle toujours ça dominicain, mais en fait, ça s'appelle l'ordre des frères prêcheurs.
Oui, tout à fait. C'est notre vrai nom, c'est l'ordre des prêcheurs et de prêcher l'évangile. Ordre des frères prêcheurs, ordre des prêcheurs. La mission de l'ordre des frères prêcheurs, c'est que tout lieu est un lieu où le Christ peut être annoncé. Et un lieu qui existe aujourd'hui, massivement pour les gens, c'est Internet. Et donc, on a décidé d'y être aussi et de le dire avec le langage d'Internet. Donc un langage qui soit court et percutant et un lieu où on est bien, où on a envie de venir souvent. Parce qu'on zappe très vite sur Internet. Alors nous, on veut proposer un lieu où les gens peuvent rester tranquillement.
Mm-hmm. C'est un défi à mon avis parce qu'effectivement sur Internet, on a tendance à aller d'un lien à un autre, à un autre, à un autre rapidement. Quoi. Et j'ai des préjugés, bien sûr, peut-être les préjugés de ma génération, mais je trouve que plus on a accès à de l'information sur Internet, plus on la consomme en vitesse et moins on l'approfondit. Il me semble que ce que vous proposez va à l'inverse de ce mouvement-là. Elle est brève, votre information, et c'est plus que de l'information.
Voilà, c'est de conduire les gens à la prière. La devise de la retraite dans la ville, quand on l'a fondée en 2003, c'était « s'arrêter, prendre le temps ». Voilà, c'était le slogan qu'on avait trouvé. Donc on veut aider les gens à s'arrêter et à prendre le temps, et prendre le temps surtout de prier, de se nourrir pendant ce temps privilégié du carême, et par ce moyen quotidien, aujourd'hui quotidien, qu'est Internet.
Voilà. Ouais. Et alors je visualise, je sais pas, mesdames, messieurs, comment vous imaginez la scène, mais normalement quand on imagine quelqu'un en prière chez lui, c'est... avec un cierge allumé, une Bible ouverte, ou alors, si on est un peu plus vieux, avec son chapelet dans ses mains. Moi, j'ai connu ça avec ma grand-mère. Et là, je dois changer un peu mon image et imaginer la personne assise devant son écran à son ordinateur.
Oui, tout à fait. Mais c'est là où, par exemple, souvent les gens nous disent « la retraite dans la ville, c'est une retraite virtuelle ». Et on n'est pas très d'accord avec ça. Parce que les gens passent du temps réel sur... Donc c'est pas du tout virtuel, c'est bien du temps réel de prière qui est passé. On peut se dire par exemple, voilà, 5 minutes par jour, c'est rien. Mais 5 minutes par jour pendant tout le carême, c'est pas mal du tout.
Ouais.
Et c'est du temps réel qui est passé à prier, à s'ouvrir à quelque chose d'autre, à sortir un peu du... Ça te rejoint dans le quotidien, mais ça te fait sortir du quotidien.
En effet. Avant de poursuivre cette entrevue, on va écouter de la musique. Vous aviez choisi quelque chose à nous proposer?
Alors, c'est un extrait des chants, des hymnes qu'on chante au couvent de Lille.
Voilà. Et donc, vous nous faites participer à votre liturgie du cœur.
Exactement.
Du cœur avec un H et sans H. Merci.
Merci beaucoup.
Vous écoutez Foi et Turbulence.
Je suis toujours en compagnie du Dominicain français Nicolas Burle, qui fait partie de l'équipe responsable de l'expérience retraite dans la ville. Nicolas, vous recevez, vous me disiez, 500 courriels par jour dans le cadre de cette retraite du Carême. Ça veut dire que vous êtes une équipe très nombreuse pour...
Eh bien non, pas si nombreuse. Malheureusement, du coup, le rythme est assez soutenu. On est quatre actifs, donc deux frères engagés vraiment dans le projet retraite dans la ville, avec plein d'autres frères qui aident. On a une cinquantaine de frères pour l'accompagnement. Et puis deux autres personnes qui viennent nous aider, des laïcs, donc deux femmes qui sont là pour nous aider à répondre à certains mails, etc.
Ouais. Et ce sont toujours des frères de la ville de Lille ou
Oui, c'est le couvent de Lille qui porte le projet et qui fait appel. Après, donc les prédicateurs sont de différents couvents maintenant. On a un monastère de moniale dominicaine chaque année, différents qui prêchent aussi. Et on a des frères de tous les continents qui accompagnent. Donc vous pouvez recevoir un mail d'un frère africain. Cette année, je vais aider, donc il y aura un frère au Canada qui va répondre.
Oui. Ça, c'est le grand atout d'Internet. La localisation géographique n'a plus aucune importance pour peu qu'on ait accès à Internet. J'avais vu ou entendu quelque part qu'il était question aussi de... Attendez, comment vous appelez ça? Smartphone?
Oui, alors on s'est rendu compte que les gens avaient de plus en plus les smartphones, les téléphones intelligents. Et du coup, comme beaucoup consultent Internet pendant leur déplacement, permettre d'avoir accès à la retraite dans la ville sur ce support-là. Ça se développe bien. Beaucoup de gens apprécient justement la simplicité d'utilisation. C'est le même site que Retraite dans la ville, mais si vous le faites avec votre téléphone, vous aurez un site simplifié. Simplifié pour le téléphone, parce que le téléphone
adapté,
est plus petit que l'ordinateur.
Adapté pour les applications qui fonctionnent sur téléphone.
Exactement.
Eh ben ça, c'est... Il y a quelque chose d'extrêmement moderne, c'est même pas le bon mot, extrêmement contemporain, assez visionnaire aussi, je trouve. Est-ce que ça provoque des réactions dans l'Église, d'abord dans l'Église de France, et entre autres l'Épiscopat ou les milieux paroissiaux? Est-ce que vous avez des échos?
Alors, on a un bon soutien dans l'Église en France. Par exemple, le frère qui a fondé la retraite dans la ville en 2003 a été invité par les évêques cette année à Lourdes pour leur donner une conférence sur les enjeux d'Internet. Beaucoup sont sensibles justement à ce média pour rejoindre les gens. En dehors de l'Église, ce qui est intéressant, c'est que souvent les gens sont intéressés par la modernité, un peu du cybermoine. Ils voient pas trop comment est-ce qu'on peut vivre dans un couvent... être en habit religieux et faire des sites internet. Alors quand ils nous rencontrent, moi j'ai donc 30 ans et je suis né sur internet, donc pour moi c'était naturel dans ma vie religieuse aussi d'utiliser internet.
Mais cette expression cybermoine, Nicolas, c'est assez...
Ben, c'est
ça peut lever toutes sortes d'images. Ouais.
C'est les journalistes qui ont inventé cette image et c'est vrai que ça correspond bien. Nos frères prêchaient dans les églises, écrivaient des livres, etc. Et ben les frères dominicains du 21e siècle, ils prêchent sur Internet et c'est normal.
Eh bien sûr. Et quand vous disiez, ce sont les médias qui nous ont appelés comme ça, les journalistes, alors ça veut dire que votre retraite dans la ville est aussi couverte par les médias
Oui, ils sont très intrigués par le fait que cette retraite existe déjà depuis 10 ans et par le fait qu'il y ait beaucoup d'inscrits. Donc ils sont très intéressés aussi par cette période du Carême qui reprend en France une certaine vigueur, puisque les chrétiens... avait un peu délaissé souvent cette période et se la réapproprie aujourd'hui, comme un temps vraiment de changement intérieur. Donc il y a beaucoup d'initiatives en France, des petits carnets faits par les paroisses, beaucoup de diocèses investissent. Ça, je trouve ça très bien parce que c'est la force de la liturgie. Chaque temps est coloré de façon différente dans la liturgie. Le temps ordinaire est ordinaire, mais le temps de l'Avent et le temps du Carême, c'est pas pareil.
Le temps de Pâques aussi est particulier, Et donc, on parle de vous dans la presse standard, ordinaire, et même sur TF1, peut-être.
Oui, TF1, France 2, on a fait plein de journaux télévisés du soir, la radio. Ouais, c'est étonnant. Tous ces gens
mais
qui
en fait, c'est probablement parce que vous êtes étonnant. Il y a quelque chose là qui doit surprendre, puisqu'on a toujours l'image, enfin, dans ces zones-là de la société, on a l'image toujours d'une église un peu poussiéreuse. Alors, ouais, ça m'étonne pas qu'ils aient créé cette image du cybermoine. J'aime bien, moi. Donc, vous allez continuer cette expérience, bien sûr, et de l'Avent, qui était votre première cette année, mais qui va se poursuivre,
oui,
et du Carême. Vous en avez déjà 10 de fait, je crois bien. Ce sera la 11e cette année. À chaque fois, il y a un thème. Vous pouvez nous en parler?
Alors, à chaque fois, on prend un verset de l'Écriture pour lancer la retraite. Et cette année, le thème, c'est « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et c'est Jésus qui parle. C'est pas nous qui parlons à Jésus en lui demandant de faire des choses pour lui. C'est Jésus qui nous parle, comme il parlait à l'aveugle Bartimée sur la route de Jéricho. Et le carême, c'est un temps où Jésus fait des choses pour nous, fait des choses en nous, plus que nous faisons des choses. Et voilà, c'est pour un peu changer de perspective, ne pas prendre ce temps pour un temps de musculation spirituelle, mais un temps vraiment de réforme.
Ouais. Alors, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est donc la question que Jésus pose, vous nous le disiez, à l'aveugle Bartimée. Pour les gens que ça intéresse, on est dans le livre de Marc, au chapitre 10, à la toute fin chapitre 10 du livre de Marc. Et c'est bien parce que vous savez ce qui suit ce récit dans l'évangile de Marc, c'est ce qu'on appelle l'entrée des rameaux. Et donc, ça nous conduit presque à la toute fin du carême. Est-ce que je dois en conclure que sur ces images ou ce thème-là seront greffés l'ensemble des parcours bibliques ou...
Disons, oui, ça colore la retraite. Donc, les prédicateurs ont pensé voilà, à ça, à Jésus qui vient pour nous aider à traverser ce désert du carême.
OK. Et chacun de vos prédicateurs dispose d'une semaine, donc d'un bloc de 7 interventions,
oui,
incluant celle du dimanche. Donc, choisis un parcours biblique, mais qui doit s'inspirer, qui doit être coloré par cette question de Jésus à Bartimée.
Voilà.
Et est-ce qu'ils s'entendent entre eux?
Alors oui, ils se retrouvent pendant une semaine chaque année pour préparer. Donc, il y a une retraite avant la retraite.
Ça,
c'est la retraite
bien.
Des prédicateurs,
ouais,
qui se retrouvent et viennent avec leur méditation déjà rédigée et les discutent entre eux, ce qui est un très bon exercice fraternel de discuter des prédications.
Et ça leur permet d'agencer l'ensemble pour que sur les 6 semaines de parcours, il y ait une sorte de cohérence dans ce qui est proposé aux gens. Nicolas, vous nous avez décrit un certain nombre d'éléments. J'ai gardé par-devers moi quelques réserves pour vous laisser la chance de développer. Mais je peux pas empêcher de penser que l'utilisation d'Internet, bon, c'est assez individualiste, quoi. C'est entre moi et mon ordi, ou à la limite, c'est entre moi et un conseiller spirituel, si j'envoie un courriel à votre équipe. L'aspect communautaire est un peu absent. Remarquez, c'est vrai aussi dans les églises où les gens sont jamais invités à parler entre eux. Et ils ont beau être assis côte à côte, on n'est pas certain qu'ils forment communauté. Mais bon, comment est-ce que vous pensez à cette dimension communautaire? C'est une communauté virtuelle ou?
Disons qu'on est déjà pris de toute façon dans ce monde individualiste où on a du mal aujourd'hui à vivre dans des communautés, à être ensemble. Donc, la retraite dans la ville, elle est prise dans ce mouvement, mais on essaye de développer des outils, ou des outils qui existent déjà, comme le blog, par exemple. Ça, c'est un outil que j'aime bien parce que les gens se l'approprient très rapidement. C'est-à-dire que nous, on va poster des billets avec des nouvelles de la retraite, la présentation du prédicateur, des choses comme ça, et les gens commentent. Le blog, c'est un site. En fait, c'est comme un petit carnet, vous voyez, que j'ai sous la main, et je le mets sur Internet, et les gens peuvent le commenter. Et en fait, dans ces commentaires, donc là, il y a plusieurs centaines de commentaires, et les gens se mettent à parler entre eux. Ça, c'est très intéressant.
Et donc, ils se répondent les uns aux autres.
Exactement, et la discussion nous échappe complètement, et ça, c'est très bien. On se rend compte qu'ils forment une vraie communauté puisqu'ils se soutiennent. Une anecdote, par exemple, c'est une personne qui ne s'était pas confessée depuis des années, parlait de voilà ses doutes, le fait qu'elle avait envie, mais qu'elle n'arrivait pas, et les gens l'ont encouragée. En disant, alors tout simplement, je vais prier pour vous, en expliquant l'intérêt, en racontant aussi l'expérience positive qu'ils ont faite du pardon de Dieu dans la confession. Et petit à petit, cette personne a changé. Elle y est allée, elle est revenue, elle a dit « Ah, mais c'était formidable !» Et là, tout le monde a applaudi. Il y a aussi le fait que les gens ne savent pas comment prier. Bien souvent, on ne leur a pas appris. Et du coup, ils prient avec des mots d'enfant, alors qu'ils ont 50 ans de plus. Et ben voilà, la retraite dans la ville, par les méditations et par la communauté des internautes, c'est un lieu où on va se former, on va apprendre à prier, on va essayer de retrouver voilà tous ces gestes qu'on n'avait pas fait grandir.
Ouais. Alors, je viens d'entendre passer plusieurs caractéristiques qui me paraissent importantes pour le communautaire et qui, enfin, sont des éléments pas très présents dans nos communautés chrétiennes aussi. C'est dommage, mais d'abord, l'entraide. Ensuite, la prise de parole. Et donc, la parole est à qui veut bien la prendre, si je comprends bien.
Oui, tout à fait.
Et le fait que les gens puissent être ressources les uns pour les autres, sans croire qu'ils doivent être formés en théologie ou prêtres ou religieuses. Ou...
Quand on est chrétien, on a reçu l'Esprit Saint, donc on est capable de dire avec prudence de quoi on vit et comment on vit. Ce qu'on veut, c'est que les gens puissent former une communauté, mais qui ne replace pas la communauté chrétienne. La retraite dans la ville, ça existe pendant le carême. Et ça se ferme le jour de Pâques. Et on dit aux gens, voilà, au revoir, retournez dans vos communautés chrétiennes ou continuez d'y être. Allez-y, allez voir les chrétiens autour de vous. Nous, on cherche pas à remplacer l'Église, surtout pas. Au contraire, on veut être une porte d'entrée vers l'Église, c'est-à-dire permettre aux gens de rentrer facilement dans ce lieu pour continuer leur route après.
Ouais, mais je trouve ça assez curieux de vous entendre dire remplacer l'Église. Parce que cela est l'Église, aussi bien que n'importe quel groupe qui se réunit tous les dimanches sans jamais se connaître dans une paroisse parfaitement anonyme où ils diront jamais un mot. Pourquoi cela ne serait-il pas aussi un lieu d'Église?
Parce que c'est souvent un reproche qu'on fait aux nouveaux médias, c'est d'enfermer les gens chez eux. Nous, au contraire, on pense que, voilà, c'est, de même que les livres n'ont pas tué l'Église, Internet ne tuera pas l'Église. C'est un moyen pour les gens de connaître la foi chrétienne et, avec l'avantage d'Internet, de connaître d'autres chrétiens. C'est en fait assez compliqué aujourd'hui de connaître d'autres chrétiens parce qu'on est pris dans une société individualiste. Du coup, par exemple, si vous allez parler avec des gens, on est tous un peu des hérissons, du coup, ça pique.
Ouais.
Et puis aussi, il n'y a pas forcément beaucoup de lieux où on rencontre des chrétiens aujourd'hui.
C'est vrai, et de toute manière, il y a des gens qui le sont et qui n'ont pas toujours envie de s'afficher tels. Dépendant du milieu où ils sont, ou ne sachant pas trop comment ça sera perçu ou reçu. Enfin,
mais la grande différence, c'est que nous, on est là pour des temps privilégiés, de façon provisoire, alors que l'Église, elle est là pour toujours. Donc, c'est la grande différence entre...
Mais Nicolas, enfin, c'est peut-être mon ecclésiologie que je devrais revisiter. Il me semble que l'Église, elle est là depuis toujours et pour toujours, parce qu'elle est là aussi, avec de nouvelles manières d'être présente, de nouveaux modes de présence. Et que dans ce sens-là, vous remplacez rien, enfin, ouais, pas plus que la paroisse remplace l'Église et pas plus que la communauté religieuse.
C'est que le reproche nous est fait que c'est une retraite virtuelle et que ça isole les gens, souvent, parce qu'on a cette image d'Internet. Et nous, notre propos, il est beaucoup plus modeste. On sauvera pas l'Église par la retraite dans la ville, mais on propose quelque chose pour un temps délimité. Voilà, c'est ça que j'essaye de dire.
Bon, j'entends bien, vous n'avez pas la prétention de sauver l'Église, mais après la pause, Nicolas, j'aimerais quand même élargir la réflexion avec vous, parce qu'il me semble que cette expérience de la retraite dans la ville est inspirante pour certains défis pastoraux actuels, entre autres la question des communautés chrétiennes, les diverses façons de faire communauté, on a déjà un peu abordé cet aspect, mais je pense aussi aux grands défis de la nouvelle évangélisation, qui est une priorité actuellement partout dans les églises d'Occident. Il me semble que votre expérience pourrait être éclairante sur le rôle qu'Internet peut jouer dans la nouvelle évangélisation.
Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Béni soit le Père, qui nous a comblés de toute bénédiction. Béni soit le Fils, en qui nous devenons des fils. Béni soit l'Esprit, qui ouvre nos cœurs à la vraie vie. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera.
Vous écoutez Foi et Turbulence.
Je suis en compagnie du Dominicain français Nicolas Burle. L'expérience retraite dans la ville dont vous parlez, Nicolas Burle, bon, elle est ponctuelle, j'entends bien. C'est deux moments par année. Ça prétend pas, donc, offrir un lieu d'appartenance chrétienne sur toute l'année de façon permanente pour les chrétiens, pour les catholiques. Mais est-ce que cette expérience-là, en elle-même, qui est nouvelle, est-ce qu'elle ne nous donne pas à penser sur des possibilités réelles de communauté chrétienne, sans penser que ça doit être retraite dans la ville, mais enfin sur d'autres manières de faire communauté? Puisque je vous ai bien entendu, il y a un réel échange entre les gens, une réelle participation, une réelle prise de parole.
Je pense que c'est des communautés, d'abord, leur atout, c'est qu'elles peuvent être des communautés de rassemblement autour d'un intérêt. Vous voyez, l'intérêt de célébrer le carême, l'intérêt de célébrer l'Avent, d'écouter les psaumes. Voilà, ça amène des gens à discuter entre eux. Le deuxième intérêt, c'est retraite dans la ville, notamment, c'est un lieu de passage. Voilà, les gens arrivent, ils rencontrent des chrétiens, et ce qu'on souhaite, c'est qu'ils continuent leur chemin vers d'autres chrétiens là où ils sont.
Ouais.
Vous voyez, c'est un peu ce que disait souvent frère Roger à Thésée. C'est, on ne peut pas être des frères de Thésée partout dans le monde. On est dans un lieu, venez à nous et nous vous donnons le courage de retourner comme chrétien là où vous êtes.
Bien sûr. Comme une retraite d'ailleurs, c'est
exactement.
Ça aussi. On fait pas ça, une année de retraite dans un couvent.
Oui, voilà. Ouais. Et sur Internet, il y a vraiment des choses à inventer avec les forums, avec les blogs, pour arriver à ce que cette communauté dure. C'est ça toujours le secret. Ce que je remarque, c'est qu'il y a souvent beaucoup de fluctuations dans les blogs, dans les forums. Donc il y a un grand intérêt tout d'un coup, beaucoup de gens vont venir et puis après ça va baisser. Donc est-ce qu'il faut forcément fidéliser les gens ou est-ce qu'il faut profiter qu'Internet soit un lieu justement où les gens passent, se rassemblent, on discute et puis après on va aller ailleurs. Vous voyez, quelque chose de plus nomade.
Avec un noyau dur, probablement, de personnes plus stables et qui finissent même par assurer peut-être une certaine permanence. Et puis des gens, oui, qui vont et qui viennent. Vous savez, les mages, ils sont repartis chez eux. Hein.
Oui, exactement.
Moi, ça me plaît beaucoup. Et que ce soit dans l'Évangile qui s'intéresse le plus à l'Église et que les premières figures de croyants qui nous présentent, les deuxièmes après Marie et Joseph, ce sont des gens qui viennent et de chez eux et qui repartent. Et on ne sait pas du tout comment ils vont continuer de vivre.
Oui, tout à fait. Le secret, c'est qu'il faut des lieux identifiés. Là, ils avaient l'étoile pour les guider.
C'est ça.
Et donc, sur Internet, il faut des lieux solides où on propose des choses intelligentes. Donc, le vrai défi pour nous, les chrétiens, il est là. Mais il y a déjà de très belles choses qui se font. Il y a énormément de sites Internet. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils ne sont pas beaucoup en réseau ou que c'est assez difficile de trouver des navires amirals un peu dans la flotte chrétienne. Donc voilà, c'est un travail à faire aujourd'hui. C'est que ces sites-là soient de plus en plus connus et qu'on trouve de plus en plus de lieux chrétiens pour se rassembler et faire connaître le Christ sur Internet.
C'est-à-dire, il y a beaucoup de sites, c'est vrai, qui donnent des informations, qui donnent même du contenu biblique ou théologique. Mais en même temps, il me semble qu'on est toujours dans le registre de l'information à sens unique, vous voyez. Et ce que j'entendais, qui me frappait et qui me plaisait dans ce dont vous avez parlé, c'est d'avoir favorisé cette interaction des gens, parce que vous auriez très bien pu proposer cette retraite-là sur le même modèle, quoi, des contenus à méditer, mais il n'y a pas de retour possible. Ça n'a pas été ça, votre choix?
Non, ça n'a pas été ça, parce que tout simplement, pour améliorer la retraite, il vaut mieux savoir ce que les gens en pensent. Ce qu'on trouvait aussi intéressant, c'est que cette retraite, il y avait tellement de monde qui venait qu'on ne pouvait pas tout faire nous-mêmes. Alors, il valait mieux céder des gens qui étaient là et puis leur proposer un lieu où discuter,
ouais,
tout
où
simplement.
Ils pouvaient s'entraider. Et ça fait longtemps que j'ai pas entendu une expérience d'église se plaindre qu'il y avait trop de monde, vous savez.
C'est la magie d'Internet, c'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que pour accueillir autant de gens, il faut quand même des gens qui soient là, une certaine permanence, comme vous l'avez dit.
Ouais.
Et ça, c'est le grand défi, c'est que pour accueillir les nomades, tous ces gens qui passent, vous voyez, c'est un peu en reprenant l'image d'une église, c'est que pour cette église, elle soit ouverte, avec ses portes ouvertes, il faut quelqu'un qui fasse l'accueil, quoi. Et même plusieurs personnes, si c'est possible. Et pour accueillir tout ce flux de personnes qui va passer, déposer une bougie et tout ça. Donc, dans notre communauté chrétienne, elle doit vivre de ça. Alors nous, on a la chance d'être une communauté de frères. Et donc, c'est vraiment porté par toute la communauté, par la prière des frères, par leur action, parfois très invisible. Et puis, ce qu'on essaye, c'est que ça donne envie à d'autres communautés de le faire.
Ouais. Ah, ça, c'est intéressant. Il y a une communauté rassemblée, physiquement rassemblée, qui est à la source d'une communauté virtuelle. Sinon, ça fonctionne pas.
Ça pourra jamais fonctionner, non. Les communautés hors sol, je crois pas que ça puisse exister une communauté hors sol. Vous voyez, comme des plantes hors sol, comme ça fait des tomates qui ont pas de goût. Et non, il faut un lieu d'incarnation. C'est-à-dire un lieu où on parle vraiment ensemble, où on discute. C'est là où il y a une part du virtuel, et je prends cette critique d'Internet, il y a une part du virtuel qui fait qu'on ne rentre pas en contact tout à fait. Ça ne remplacera jamais l'échange entre personnes. Vous voyez, l'accompagnement qu'on propose pendant le carême, on le propose pas à l'année. C'est pas la même chose d'accompagner quelqu'un dans la réalité et de l'accompagner par courriel.
Ouais, je comprends.
Donc il faut avoir cette modestie de dire je rencontre les personnes sur Internet, je discute avec eux, mais ça ne remplacera jamais une rencontre réelle et puis une discussion entre personnes.
C'est vrai, vous avez raison. En même temps, sans faire atteinte à votre modestie, le mot virtuel, on l'emploie parce qu'il est consacré pour le système Internet, quoi. Il ne veut plus dire tout à fait ce qu'il signifie dans le langage courant, c'est-à-dire virtuel opposé à réel. Mm-hmm. Il faut bien voir que quand les gens ont un accès virtuel à de l'information, à l'Encyclopédie britannique, ou enfin c'est à la vraie encyclopédie qu'ils ont accès. Et donc...
Disons que l'écran, justement, fait écran. Entre moi et la personne. Il y a un écran d'ordinateur entre
moi. Je me demande ce qui fait écran entre deux personnes assises sur un même banc à l'église le dimanche. Et vous voyez, je suis pas certaine que cette communauté-là est pas autant virtuelle, mais là, dans le sens courant du terme. Mais bon, je veux pas opposer l'une à l'autre, mais j'entends bien, à partir de ce que vous avez dit, de l'importance du fait que vous êtes déjà un noyau et un couvent. J'entends bien ça et je me dis, ça serait assez fantastique qu'il y ait des communautés chrétiennes, en présence physiquement, des noyaux de communautés chrétiennes dont la vocation est d'être le point de rassemblement, si on veut, la plaque tournante d'une communauté chrétienne plus large, accessible par Internet. Ouais. Et ça serait assez génial de penser une église réseautée de cette manière, non?
Oui, ce serait un bon défi à faire. Je pense que on est en attente de ça. Il faut inventer des choses comme cela.
Il faut explorer effectivement des possibilités comme celle-là et revisiter complètement cette manière de faire communauté, celle qui est possible, par Internet. Comme vous dites, vous êtes un enfant de l'Internet. Et j'imagine que c'est plus à votre génération que va revenir. Qui revient déjà cette responsabilité d'explorer, d'inventer des modèles.
En même temps...
Sans prétention, mais enfin, il faut essayer des choses pour...
On essaye, et puis je vois que Internet peut passionner à tous les âges. Disons qu'il faut retrouver cette capacité à être en réseau, à faire passer les informations, quand quelque chose nous plaît, à le dire. Peut-être que c'est aussi simple que ça, l'évangélisation. Quelqu'un qui me plaît, qui est le Christ, je vais te le dire, ou je vais écouter pourquoi est-ce que tu es loin, pourquoi est-ce que cette personne-là ne te plaît pas, et te proposer peut-être un autre visage du Christ que tu n'as pas vu. Voilà. Quand on parle de nouvelle évangélisation, je pense que c'est pas tellement nouvelle par les moyens. On peut se dire, Internet, ça c'est des nouveaux moyens, c'est la nouvelle évangélisation.
Et on sert les mêmes contenus.
Voilà. Comment parler le langage des gens d'aujourd'hui? Benoît XVI utilise par exemple l'expression continent numérique, que j'aime bien. Voilà, il y a un nouveau monde, comme il y avait le nouveau monde des Amériques au XVIe siècle. Et bien maintenant, il y a le nouveau monde d'Internet. Les gens, ils parlent un certain langage. Et il faut qu'on y aille, qu'on apprenne ce langage et qu'on rentre en conversation avec eux.
Oui. Évidemment, ce sera plus facile pour les gens qui sont déjà citoyens par naissance de ce monde-là. C'est-à-dire, déjà apprendre un nouveau langage, c'est moins le cas des gens pour qui c'est le langage natif.
On peut apprendre.
Oui, mais on peut toujours apprendre, c'est vrai. Mais effectivement, ça veut dire que la nouvelle évangélisation qui est désignée partout comme une priorité, c'est une priorité qui, à mon avis, a souvent beaucoup de mal à se trouver des mains et dans laquelle on ne sait pas trop comment investir. Vous me dites, oui, il y a quelque chose à explorer là, de ce côté.
Ouais, la facilité d'Internet. Alors, il y a d'autres moyens qu'Internet, mais comme on est...
Oui, on est là-dessus, on est là-dessus. Bien sûr.
Un blog, par exemple, voilà, c'est un petit carnet de ce qu'on aime, qu'on met en ligne. N'importe qui peut créer un blog aujourd'hui et mettre des petits articles en ligne et sur le fait qu'il est chrétien, témoigner de cela. Et vous verrez que les rencontres sont étonnantes, parce que des gens vont arriver... par des moyens X ou Y sur votre blog un jour, certains vont beaucoup aimer, certains vont beaucoup détester et vous le dire. Et ben dans les deux cas, voilà, il va falloir apprendre à écouter ce que les gens disent ouais. de votre travail. Et petit à petit, des amitiés se créent, vous allez rencontrer d'autres blogueurs sur Internet et puis vous allez mettre en réseau vos blogs en faisant des liens les uns vers les autres. Et c'est comme ça qu'une communauté grandit, tout simplement.
Ouais. Mais si on parle de nouvelle évangélisation, on parle de gens qui viendront pas sur votre blog parce que vous êtes chrétien, puisqu'eux-mêmes le sont pas intéressés, ou y ont jamais pensé, ou, et pourquoi est-ce qu'ils viendraient, sur le blog parce de que quelqu'un qui a envie de parler de Jésus-Christ?
Eh ben, parce que vous êtes chrétien à Montréal, que vous avez fait une balade au Mont-Royal, vous avez pris des photos, vous aimez beaucoup, l'oratoire Saint-Joseph, et puis lui, peut-être il faisait une recherche sur, le Mont-Royal, et il va tomber sur votre blog, ouais. sur vos photos, et il va lire ce que vous avez à dire.
Ouais.
Et peut-être que ça va faire une rencontre qui lui plaira. Je pense que les gens sont pas si hostiles et pas si indifférents qu'on pense quand on leur propose les choses de façon belle et puis de façon explicite. Voilà, tranquillement, sereinement. Je suis chrétien, je te le dis, et il n'y a pas de quoi être agressé que je te le dise.
Ouais, c'est ça, sans prétendre que j'ai toute la vérité à moi tout seul. Ou et donc, ça veut dire que les gens arrivent par mode de transversalité. Et ça aussi, c'est la pensée transversale, c'est quelque chose qui fonctionne naturellement sur Internet. Mm-hmm. Les gens fonctionnent moins en mode de pensée linéaire. Mm-hmm. Et on continue, c'est ça, à toujours proposer l'Évangile dans une pensée, peut-être pas unidimensionnelle, mais en tout cas assez linéaire. Et si tu te rends pas à A, B... C, D, c'est foutu, tu y arriveras jamais. Tandis que là, vous me dites, bah oui, mais il va arriver par FGH sur mon blog et puis ça fait rien.
Non, et voilà, il faut faire... la nouvelle évangélisation, ça nous demande de faire preuve de créativité.
Ouais.
Et donc d'inventer des moyens. Mais même pas tellement d'inventer des moyens pour parler aux gens, parce qu'il n'y a rien de plus effrayant que quelqu'un qui veut à tout prix parler à des gens.
Ouais.
C'est tout simplement, qu'est-ce que j'aime faire? Est-ce que ce que j'aime faire est relié au Christ, et comment le relier au Christ, et comment le montrer,
ouais.
comment le proposer, et comment donner envie à quelqu'un d'être chrétien?
Bien sûr. Et là, vous parlez de toute personne, qui a envie de faire ça, c'est pas d'un dominicain ou
religieuse,
bien sûr.
Toute compétence est bienvenue.
Ouais, je comprends bien. Et à ce moment-là, ça aussi, ça peut donner des fruits que personne peut mesurer. Et d'une certaine manière, ça existe peut-être déjà beaucoup.
Oui, ça existe énormément.
Web.
Ouais. Tout à fait.
Ouais. Nicolas Burle, si nous revenons pour conclure à cette expérience de la retraite dans la ville et du carême qui vient bientôt en 2013 et qui commence en février toujours, mais je ne sais pas.
Le 13 février, c'est le mercredi décembre.
Oh oui, alors il faut s'en rappeler, c'est la veille de la Saint-Valentin, donc c'est plus facile pour plein de gens de s'en rappeler comme ça. Est-ce que vous souhaitez nous dire comment on pourrait s'inscrire ou même simplement comment on pourrait avoir accès à plus d'informations? Est-ce qu'il y a des conditions?
Alors, il n'y a aucune condition. C'est complètement gratuit. Et c'est tout simple. Vous allez sur le site retraitedanslaville.org et il y a un bouton « S'inscrire » et vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail, mais vous pouvez aussi suivre directement sur le site sans vous inscrire. Par mail.
On peut aussi suivre, autrement dit, tout ce que vous envoyez par mail aux gens qui sont inscrits est disponible jour après jour sur le site.
Oui, tout à fait.
Alors, donc, en plus d'avoir des abonnés courriels, vous pouvez aussi avoir des participants dont vous ne connaîtrez jamais l'existence ni le nombre,
voilà.
Simplement parce qu'ils vont consulter le site.
Exactement.
D'accord. Donc, si quelqu'un se réveille seulement le 25 février avec l'envie de s'embarquer...
Il peut toujours venir, même le dernier jour, il sera bienvenu.
Même le dernier jour. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de frais, il n'y a aucune condition, c'est ça.
Aucun frais, aucune condition.
Très bien. Nicolas, vous nous rappelez le thème de ce carême 2013?
C'est Jésus qui dit à Bartimée, l'aveugle de Jéricho, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»
Bien, un grand merci, Nicolas Bull, d'être venu nous parler de cette belle expérience que vous avez dû vous en rendre compte, je trouve, très stimulante, qui me donne plein d'idées. Merci d'être venu et bonne chance avec ce projet.
Merci beaucoup.
Un grand merci à Nicolas Bull, le frère dominicain de France, non seulement pour nous avoir informés sur la retraite dans la ville, mais d'abord et surtout pour en être l'un des artisans et donc nous rendre accessible cette intéressante proposition de retraite sur Internet. Je vous rappelle qu'il y a un site sur lequel vous pouvez avoir davantage d'informations et aussi vous inscrire, si vous le souhaitez. Ce site est retraitedanslaville.org. Je mettrai le lien vers ce site sur le site de l'Institut de Pastoral, ainsi qu'un autre lien et une suggestion de lecture sur le thème plus large de Dieu sur Internet. Notre adresse est ipastorale.ca. C'est Francine Robert au microphone. Je vous remercie, Madame, Monsieur, d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Merci aussi à Hélène et à Nathalie pour leur soutien technique, ainsi qu'à Louis Lesage qui coordonne l'ensemble de cette série « Foi et turbulence ». Merci d'avoir été là. Bonne semaine et bonne journée sur les ondes de Radio Ville-Marie.
Gloire à toi, ô Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu.